Alors, Monique, on revient sur Donald Duguay. C'est le fameux DD, celui qui a porté plainte contre Éric Salvay. Et c'est d'ailleurs le seul dossier qui a été retenu par le DPCP et qui va maintenant suivre son cours devant le tribunal.
Il a choisi aujourd'hui de sortir de l'ombre. Il a d'ailleurs fait les démarches en ce sens directement auprès du tribunal. Dans l'acte d'accusation, effectivement, c'était ses initiales jusqu'à aujourd'hui, DD. Donald Duguay, je l'ai rencontré, lui, à l'époque, en 93, il travaillait comme messager à Radio-Canada avec Éric Salvay. Donc, bien avant, en effet, comme on le dit depuis le début, qu'il soit connu. Il allègue avoir été agressé sexuellement dans une salle de bain de la tour de Radio-Canada après un crescendo d'harcèlement qui aurait duré plusieurs mois, selon ses dires. Il ne pourra pas raconter aujourd'hui cet événement en question. Nous l'entendrons seulement au procès. C'est quelqu'un qui semble avoir un grand respect pour la procédure judiciaire. Il nous explique d'abord pourquoi il sort aujourd'hui à visage découvert.
C'est important dans mon cheminement personnel de sortir de l'anonymat, de lever la tête pour faire changer la honte de côté. C'est pas à moi à baisser de la tête. C'est la seule journée où je vais en parler.
La procureure de la Couronne au dossier est au courant de la démarche, en fait, qui est effectuée aujourd'hui. Le 17 octobre 2017, donc la journée où l'article de la presse paraît, c'est une amie qui a porté à son attention cet article-là. Et là, ça a été le choc post-traumatique qui est remonté à la surface.
J'ai un peu lu ce qui s'était dit sur le truc toute la journée et c'est ce qui a déclenché ma mémoire traumatique. Les souvenirs, les sons, beaucoup de choses reviennent en mémoire. C'est très déstabilisant. On revit tout comme si c'était hier. Les crises d'anxiété, attaques de panique, les tremblements sans cesse. J'ai passé 5 jours sans dormir, vomissements. Le cerveau, pour survivre à cette faculté-là, de mettre dans un tiroir, de bien enfermer. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, le tiroir s'est ouvert et il n'y avait plus moyen de le remettre en place. 48 heures après avoir fait la plainte à la police, le stress était vraiment trop élevé pour travailler. Donc, d'essayer d'un retour progressif au travail. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé sur l'aide sociale, les banques alimentaires. J'arrivais plus à m'occuper de moi-même, de mon quotidien.
C'est ramassé en psychiatrie, en fait, après
cet article-là. Après avoir porté plainte.
Après l'article.
OK.
Et lorsqu'il est sorti, c'est là où, au bout de quelques jours, là, il s'est présenté au SPVM. Il a d'abord appelé à cette fameuse ligne de dénonciation.
Lorsque la police a décidé d'ouvrir une ligne, j'avais déjà réfléchi pendant 2 ou 3 jours avec mon médecin, avec des amis, à savoir ce que je faisais. Et je voyais bien que ce qui sortait dans les médias était quand même assez récent dans la dernière décennie. Je me disais, s'il y a d'autres victimes comme moi qui ne sortent pas, si on se dit tous, ça ne me regarde pas, je veux pas aller rejouer là-dedans, on n'aura jamais le portrait global. Donc, ça devenait une responsabilité. Je n'ai jamais su si j'avais été sa première victime, mais je me disais qu'il était presque impossible qu'en 93, au début, les premières fois où il y a eu les premières altercations, parce que ça s'est fait en crescendo, nous travaillions tous les deux à la salle du courrier de Radio-Canada. Donc, c'était plus profond qu'un abus de pouvoir ou que l'argent monte à la tête ou sa notoriété. Il y avait autre chose. À l'époque, je venais d'avoir 20 ans. L'homosexualité n'était pas aussi bien acceptée. J'ai travaillé à Radio-Canada. J'avais un contrat temporaire. C'est arrivé un vendredi. Le lundi suivant, j'ai voulu aller porter plainte à la police. Et les collègues, les amis, évidemment, on pèse le pour et le contre. Ils disent, bon, est-ce que on va te croire? Est-ce que tu vas garder ton travail? Il y a la guerre du SIDA. Comment tu vas être accueilli avec la police? Tu pourras perdre ton emploi. J'étais trop jeune pour arriver à prendre des décisions si grandes et j'ai rebroussé chemin. Aujourd'hui, je me sens en partie coupable parce que je me rends compte que son comportement a continué et que si peut-être je l'avais arrêté à ce moment-là, j'avais été à la police, il y aurait peut-être beaucoup de victimes qui auraient eu une meilleure vie. Le système ne peut pas agir si les victimes ne sonnent pas l'alarme. Mais j'ai failli à mon devoir de citoyen à ce moment-là. C'était important pour moi de ne pas faillir une deuxième fois. Et c'est là où le processus judiciaire s'est mis en place.
Mais c'est important là, parce qu'il en a parlé à des gens à l'époque. Et
oui.
Ça a dû jouer dans la décision de retenir sa plainte et de pouvoir aller donc avec des accusations.
Sans aucun doute, il y avait matière à corroborer ces dires de l'époque. C'est sûr que là, maintenant, il y a beaucoup de craintes par rapport au procès à venir. On le sait, il est la seule plainte retenue, en fait. Donc, c'est beaucoup de pression. Mais lui, ce qu'il se dit, c'est « je vais aller jusqu'au bout » et ce sera au tribunal, au final, de trancher. Si la preuve existe bel et bien et si un acte criminel a été commis, vous pourrez d'ailleurs entendre davantage d'extrêmes un petit peu plus tard ce matin. Je vous rappelle qu'Éric Salvay est formellement accusé d'agression sexuelle, d'harcèlement criminel et de séquestration. L'affaire revient en cours le 27 mars prochain.
Merci Monique. Déjà 6 heures.